Bien, alors revenons à nos moutons là. On est arrivé là. On est encore dans Bête. Oui, oui, c'est ça. Avchama ben Rav Hanina, c'est ça? D'accord. Donc Avchama ben Rabbi Hanina Amar Saro shel Esav haya. Ce ish, n'est-ce pas, dans la Torah c'est marqué, il y a un ish qui a lutté avec lui. Et bon, alors qui est ce ish? Le Rav Chama a dit, ce Ish, c'était le prince d'Esav. Ou, Davé Amarle, qui alken raiti fanecha ki rot pene elokim batirtseni.
Bon, qu'est-ce que ça donne là?
Vous avez renoncé, vu la pluie? Allô? C'est Thierry qui a appelé. Allô? Est-ce que j'ai... Il y a un problème, ouais. Bon, on verra. Allô? Bien. Donc il dit, « Où d'Ava Marley ?» Qui alken raiti fanecha qui rot pene elokim vatirtseni. C'est pour ça que Yaakov va dire à Esav cette fois-ci, quand il va lui donner ses cadeaux et que Esav va lui dire non, tu n'as pas besoin de me donner, j'en ai beaucoup déjà, et lui dira mais prends-le s'il te plaît. Il dit pourquoi? Il lui dit, j'ai regardé ta face, Raiti Fanecha, j'ai vu ton visage, ta face, qui rote. Oui, bonsoir.
Allô?
Oui? Bonsoir. Thierry?
Qu'est-ce qui se passe? À nouveau, ça recommence. J'ai bien répondu, mais...
Bon, on va voir. Je peux rien faire.
C'est Bellamy qui est connecté.
Tu es là, Yaakov?
Marqué Bellamy est connecté, mais... D'accord?
Bonsoir.
Bonsoir. Donc il lui dit, alors comme il s'adresse à lui, il dit, j'ai vu ton visage comme en fait... On regarde la face d'Elohim, et tu m'as batirtseni et tu m'as agréé.
C'est qui dit à qui là?
Ça c'est Yaakov qui dit ça à Esav. Alors puisqu'il lui dit j'ai vu ta face comme on voit, etc., c'est la preuve, quand il dit j'ai vu, etc., il fait référence à ce qui s'est passé dans la lutte avec l'ange. Et il lui dit, c'est ta face, donc ça veut dire que c'est le sar de Esav. D'où est-ce qu'on sait que c'est le sar de Esav? C'est que quand il s'adresse à Esav, il dit, j'ai déjà vu ton visage, en quelque sorte. Machal, l'Akletos, chez Oumed, Oumid Goshesh, Imbeno Shel Melech. Donne une parabole. C'est l'athlète qui combat contre le fils du roi. Enfin, d'un roi. Tala enav, il lève les yeux. Veraa et amelech, omen al gabav. Il voit le roi. Et le roi est debout au-dessus de lui. Immédiatement, irpish atzmo lefanav. Du coup, il se laisse abattre, en quelque sorte. Il accepte de perdre. Adaud irtiv, c'est ça qui est écrit dans le verset. Vayar ki lo yachollo. Il a vu, l'ange a vu qu'il ne pouvait pas venir à bout de lui. Amar Rav Lévi, Rav Lévi a dit, Vayar Bashchina. Il a vu la Shchina. Il a vu la présence divine. Mais je ne le vois pas dans le français. Cette partie-là.
Quand ils disent en français on lui fait dire, c'est-à-dire qu'on lui dit quoi?
Où est-ce qu'on lui fait dire? Où c'est?
Il
traduit, c'est pourquoi Yaakov lui fit dire. Ah, en haut, non. Ça, c'est l'explication du pourquoi d'où tu sais que c'est un prince d'Esav. Puisque quand il parle à Esav, il lui dit, j'ai déjà vu ta face. Donc, il veut dire que la face d'Esav, c'était la face de son prince.
Non, mais c'est sur lui fit dire.
Oui. Parce que... Bon, je ne sais pas pourquoi il lui fit dire, parce que c'est marqué...
C'est lui dit, quoi.
À Marley, c'est, il lui a dit.
Et dans Machal, c'est l'athlète qui fait l'ancien.
C'est l'athlète qui l'athlète se laisse tomber, puisqu'il voit le roi. Mais dans le texte en araméen, on a une suite, là. Il dit, « Adaud irti vayar ki lo yachollo ». Amar Rabbi Levi, Vayar Bashchina, qui lo yachollo. Je ne sais pas pourquoi ils ont sauté ça. En français, ils ont sauté un truc, je ne sais pas, il y a une autre version. Amar Rav Brechia, c'est de nouveau le même. Einanu yodim mi nitzach im malach im Yaakov. On ne sait pas qui a gagné. De Yaakov et de l'ange et de Yaakov. Ou min ma dirtiv, et du fait qu'il est écrit, vaya avec ish imo, il a lutté, il fait de la poussière, le ish avec lui, et ve mi nitmale avak, a ish she imo. Qui est-ce qui a été rempli de poussière, couvert de poussière? C'est l'homme qui était avec lui.
C'est qui répond à Rav Berachia là? C'est lui-même qui se répond?
C'est lui-même.
Il fait la question-réponse
ou... Oui, c'est une façon de parler, une façon d'énoncer. Comment tu sais?
Ish, qui est avec lui, là.
Quoi?
L'homme qui est avec lui.
Qui est-ce qui a gagné?
Oui.
Mais non, c'est le contraire. C'est Yaakov qui a gagné. Alors, comme c'est lui c'est Yaakov qui a gagné, le début du Midrash, il dit qu'en fait, l'ange s'est laissé terrasser, il s'est laissé tomber. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Ben, il a vu ce qui représente le père du fils du roi contre lequel il luttait, c'est la Shrina. D'avoir vu la Shrina, ça fait que l'ange s'est laissé tomber en quelque sorte. Ça veut dire qu'il a vu qu'il sait qu'il ne peut pas. Parce qu'il a vu c'est une façon de dire, il a vu l'ange qui était, il a vu la présence divine, qu'il a compris qu'il ne pourrait pas, que la lutte, ce n'était pas une lutte contre Yaakov simplement, mais que c'était quasiment contre Hachem. Amar Rav Chanina bar Yitzhak, Amar le Hakadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Hu ba elecha vechamisha akmiin biyado. Hachem a dit à l'ange, en fait, il lui a dit au prince de Esav, Zchuto vezchut aviv vezchut imo vezchut zkeno vezchut ziknato, pardon. Il est venu et il a des kmiot. Les kmiot, c'est des amulettes. Donc, quelque part, il a quelque chose pour le sauver, quelque chose qui va lui être profitable. Eh bien, ces amulettes, c'est le mérite de son mérite propre, d'abord, celui d'Yaakov, celui de son père et de sa mère, donc de Rivka et d'Yitzhak, et du grand-père et de la grand-mère, c'est-à-dire d'Abraham et de Sarah. Medodat Smecha. Il lui a dit à ce moment-là, Im ata yachol lamod afilu bischuto. Évalue si tu peux tenir le coup, même si en fait il n'utilisait que son propre mérite. Miyad vayar ki lo yachol lo. Immédiatement, l'ange a vu qu'il ne pourrait pas venir à bout de Yaakov. Machal le Meler Shayalo Kelev Agrion, c'est le Machal, donc la parabole, c'est un roi qui a un chien, bon, il dit donc que c'est du grec qui veut dire sauvage. Ve'ari Némiron. Et puis il a un lion, mais le lion est domestique. Le chien est sauvage et le lion domestique. Veya Melech Notel et Beno ou Melavevo Bahari. Shem Yavo Akelev Lisdaveglo Yomarlo Melech Ari Loya Yachol Lamod Bo. Vatam Vakesh Lisdaveglo. Alors, le père, en fait, donc le roi, il prend son fils et il le met auprès du lion. Il le fait que le lion est son copain. De telle sorte que si jamais le chien venait attaquer l'enfant, Yomar lo Amelech. Alors le roi lui dira, Ari lo yachol lamod bo. Vata mvakesh lizdaveg lo. Je veux dire, le lion n'a pas réussi contre mon fils, en quelque sorte. Mon fils a domestiqué le lion. Tu t'imagines que toi tu vas réussir à battre mon fils? Car chez Imiavo, Umota Olam, les aveugles d'Israël, ça c'est pour que si les peuples viennent faire la guerre contre Israël, Yomar Laim Akadosh Baruch Hu, Sarchem lo ayachol la modbo. Votre prince n'a pas pu faire, n'a pas tenu le coup devant lui. Vatem mevakshim lizdavek lebanav. Et vous, vous voulez vous mesurer, enfin, vous voulez vous battre avec ses enfants. Ensuite, le pasouk dit que l'ange vaïga bechafirecho. L'ange a dit, l'ange l'a touché littéralement. Oh, akaf yirecho, c'est traduit d'ordinaire par la hanche. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la hanche de Yaakov? Nagaba tzadikim ou bat tzadikot, banvim, banviot, shen atidim la'amod mimenu. Il a touché les tzadikim et les tzadikaniot et les nevim et les neviot qui allaient descendre de Yaakov. C'est ça, la hanche de Yaakov, c'est les descendants qui sont tzadikim, homme ou femme, et nevim, homme ou femme. Et de qui s'agit-il effectivement? De qui s'agit-il ici? Il s'agit de la génération. Ils ont vraiment fait. Ils ont fait une sélection là.
Oui, je ne pas sur quelle version ils ont lu.
Bien, il faudra la traduction anglaise la prochaine fois. Alors, c'est la génération des gens qu'on a obligés à se convertir. Shmad, c'est quand les peuples, les Romains, ou comme ça, nous ont empêchés de pratiquer la Torah, ou obligés à se convertir. Vateka kaf yerech yerakov. Et donc, le. Justement, la hanche a bougé. Il a réussi à la. Il a touché, il a réussi à la luxer, quoi. Il lui a luxé la hanche. Raverechia, verabi Eliezer. Sur ce verset-là, il y a une discussion entre. Enfin, deux opinions, Rabbi Berechia et Rav Eliezer. Eliezer Amar. Shaya. Abelazer dit au nom de Shaya, je ne sais pas qui c'était ce Shaya. Ah non. Il a fait, maintenant que l'on a, il dit, Ichlik Abassar Meala Etsem. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a déplacé la chair par rapport à l'os. Quoi. Rabbi Chaim Beshem Ravasi Amar, Sitka Kedag, il l'a fendu comme un poisson. Rav Nachman bar Yaakov Amar, Pircham Mimkoma, il a simplement déplacé de sa place. Que dire-t-il? Vateka Nafshi, Kasher Naka Nafshi. Donc c'est, on dit notre. Mon âme s'est déplacée. Amar Rav Chanina bar Yitzhak, כל אותו הלילה היו שניהם פוגעים זה בזה. פנותות לנמי, שעקן, ils ont touché l'autre, c'est-à-dire rencontré l'autre. מגיני דדין לקבל מגיני דדין. Le magen, le bouclier de l'un contre le bouclier de l'autre. כיוון שעלה עמוד השחר, ויאמר שלחיני qui ala ashacha. Lorsque l'aube est montée, lorsque l'aube a pointé, comme ils disent, alors il a dit, laisse-moi partir, renvoie-moi, parce que l'aube a pointé. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent là? Qu'est-ce qu'il veut ce Midrash? Quel est le problème? Le Midrash, lui, il est en train de décrire le... Il décrit la bataille, n'est-ce pas? Il décrit la bataille jusqu'au moment de... où l'ange lui demande de le laisser partir. Le Midrash au départ, au début, donc, il dit, d'abord on va identifier qui est l'agresseur en question, qui est le Ish. Alors, on dit le Ish c'est le prince d'Esav. Et ensuite il apporte une preuve. Alors, c'est intéressant parce que cet ange, si on regarde ce qui s'est passé, c'est Yaakov lui dit, il est maintenant face à Esav, le personnage, le bonhomme, son frère, et il lui dit, j'ai vu ton visage. Et on dit, ben, disant cela, il veut dire, ce que j'ai vu, c'était ton visage, il avait les traits d'Esav, ça veut dire que l'ange et Esav avait la même tête. Alors ça, c'est de famille, visiblement. Parce que Yaakov, lui, connaissait le rêve de l'échelle. Yaakov, il est couché au bas de l'échelle, et les anges, il y a une des quatre figures qu'il y a sur le chariot divin, c'est une tête humaine, un enfant. On dit que c'est Yaakov. Les anges vont et sont étonnés de la correspondance parfaite qu'il y a entre le visage du bonhomme Yaakov qui est couché au bas de l'échelle et le visage qui est gravé dans le chariot divin. C'est-à-dire au niveau des anges, quoi. Semble-t-il, Esav lui aussi, son ange, a aussi la même forme que lui.
Ça veut dire qu'ils ne sont pas des vrais jumeaux, alors?
Ça veut dire, mais pourquoi ça dit ça?
Ben parce que sinon, s'ils étaient des vrais jumeaux, Yaakov et Esav se ressembleraient.
Mais Yaakov, il ne s'est probablement jamais regardé dans un miroir. Il ne sait pas à quoi il ressemble, Yaakov. À part ça, ce n'est probablement pas vraiment des vrais jumeaux, d'après ce qu'on décrit. Et Théomim, mais bon, les vrais jumeaux, tels qu'ils sont décrits, ils ne se ressemblent pas beaucoup.
Et par le cœur,
par où? Oui, non, mais ça, on ne veut le dire pas.
Alors,
donc ça veut dire qu'il y avait aussi une identité, que la tête des Saves, elle est dans Maharat Amarpella, ça veut dire la tête des Saves, elle est angélique, quoi, si on veut parler comme ça. D'accord, c'est... On a cette perfection de la tête, en fait. Si la tête d'Esav est dans Maharat Amarpella, c'est qu'elle est parfaite. Alors, elle correspond exactement avec son ange tutélaire, avec son prince. Seulement, il est Esav, alors c'est pas lui, c'est pas sa tête qui gouverne. Mais il lui dit, donc on voit, d'où est-ce que Yaakov sait que c'est Sarosh et l'Esav? Pas parce qu'il s'est battu avec un ange qu'il dit, j'ai vu ton visage. D'où il sait que c'est son visage à lui, qu'il a vu quand il s'est battu avec l'ange. Et il le sait parce que c'est les deux fois le même visage. Ça veut dire probablement que Yaakov, quand il se battait, il savait avec qui il se battait. Et du coup, c'est un peu dommage, c'est un peu surprenant qu'il lui demande, mais comment tu t'appelles? À la fin, il lui dit, il va lui demander, mais comment tu t'appelles? Mais il sait bien que c'est l'ange des saints. Donc, peut-être quand il lui demande comment tu t'appelles, c'est un peu compliqué. Il va peut-être lui dire, parce qu'il lui répond, pourquoi tu me demandes mon nom? Mon nom, il change. Mon nom change selon les époques, selon les situations. Ça vous dit quelque chose, un nom qui change selon les situations?
Les différents noms divins.
Pardon?
Les différents habits divins. Elohim, etc.
C'est pas fait, c'est la même chose. C'est Hachem lui-même qui a dit, quand Moshe Rabbeinu lui a demandé qui les Bnei Israël, quand je vais venir leur dire qu'ils vont sortir d'Égypte, ils vont me demander qui t'envoie, donc quel nom tu veux que je dise. Le bon Hachem lui a dit en passant, il dit, j'ai bien compris que tu veux savoir mon nom, que c'est un prétexte que tu dis, ils vont me demander la question. Mais c'est marqué dans Chazal que Hachem a dit à Moshe, tu es en train de me demander quel est mon nom, et il lui a dit, ben, j'ai pas de nom. Mon nom, il dépend des situations dans lesquelles j'agis, c'est-à-dire quand je me présente sous cette forme-là ou dans cette situation-là, etc., j'ai une multitude de noms. Et Esav, nous on connaît deux noms d'Esav, essentiellement. Esav ou Edom. Israël, lui aussi, il a beaucoup de noms. Il s'appelle Yaakov, et le clan Israël s'appelle Yaakov, il s'appelle Israël, il s'appelle Yosef, il s'appelle Yeshurun. Oui, il s'appelle Yosef. Bnei Yosef, on est aussi les Bnei Yosef. Hein? On est les Yehudim, c'est les Bnei Yehuda. Donc on a beaucoup de noms, le peuple juif, il a beaucoup de noms. Yaakov et Esav, comme peuple, etc., ils ont plusieurs noms. Mais ce qui est important, c'est que quand il lui dit « mon nom va changer », c'est très important parce que ça veut dire que Esav n'est pas un peuple comme un autre. Esav, ce n'est pas un peuple comme un autre. Puisque Esav, puisqu'il a plusieurs noms, ça veut dire qu'il est... c'est comme on dit, Esav, c'est Edom. Et Edom, c'est quoi? Un certain temps... C'était Edom, puis après c'est devenu Rome. D'accord? Dans la Gemara, Edom c'est Rome. Et après on a dit c'est la chrétienté, après on a dit c'est le communisme, il y en a qui disent que c'est l'Amérique aujourd'hui. Tout ça c'est les noms de Edom. C'est les noms de... Et justement, le problème que nous pose le quatrième royaume dans lequel on est en exil, c'est que ça change sans arrêt de nom. Pas sans arrêt, enfin ça change. Quand un semble battu, ben c'est un autre qui continue, quoi. Ça change de nom, mais il y a une permanence, c'est toujours Edom. Et donc c'est comme ça que Edom peut accompagner toute l'histoire. Si vous voulez, Edom, il vit dans toute l'histoire comme Israël.
Mais c'est pas l'Occident.
Pardon?
C'est pas l'Occident.
Peut-être c'est l'Occident.
Parce que dans ces cas-là, il y aurait peut-être...
Si vous dites Rome, la Russie, le communisme, l'Amérique, etc., c'est bien l'Occident, non?
Forme élargie.
Qu'est-ce que vous appelez l'Occident? Mais l'Occident, c'est tout ça, non?
Mais quelque part, c'est de dire aussi que Il n'y a pas eu de chute
de l'Empire romain. Il n'y a pas eu de...
En fait, il n'y a pas eu de chute de l'Empire romain. Si on a eu les Grecs, c'est une civilisation qui a disparu.
Oui.
Oui, c'est Thierry, je suis désolé, j'ai essayé de venir, mais j'étais bloqué.
D'accord, vous êtes admis.
Merci.
Alors, est-ce que j'ai perdu Bellamy avec ça? Il va se défendre, là. Ajouter des participants. Ajouter à l'appel. On va appeler Bellamy. Voilà. Yakov, tu es là?
Oui, je suis là, merci.
Hein? Et Thierry, vous êtes toujours là aussi?
Je suis toujours là, merci.
C'est parfait, ça a marché, c'est très bien. Voilà, donc Esav, Edom, donc lui aussi, il change de nom au fur et à mesure de l'histoire. Donc on n'en a jamais fini avec. Qu'est-ce que vous disiez, vous, qu'il n'y a pas eu de suite de l'Empire romain? Ah, il n'y a pas eu de chute, oui, il y a eu la chute de l'Empire romain. Mais pas la chute d'Edom.
Voilà.
La version romaine, il y a eu la chute de l'Empire romain. Alors, mais la version d'Edom.
Donc en fait, dans cette pensée-là, on dit qu'en définitive, Rome n'est pas mort et a dominé.
Non, c'est pas Rome. C'est Rome n'était qu'un avatar d'Edom. Et Edom était Edom à un certain moment. C'était les descendants des Saves. Normalement, Yavan, c'est pas du côté de Esav. Esav, c'est un sémite. Yavan, c'est les Japhétistes. La Grèce, c'est Yafet. C'est le deuxième fils de l'autre fils de Noé. C'est pas Shem. Esav, c'est le frère de Jacob. C'est un sémite.
Et le
Paras, lui aussi, c'est. Ce n'est pas des sémites, en tout cas.
Et pourquoi Edom perdure et que les autres sont...
Parce que Edom, c'est l'alter ego de... Enfin, pas l'alter ego, mais c'est le jumeau d'Israël. Donc, il accompagne, c'est la face négative. Enfin, la pointe avancée d'Edom, c'est Amalek. Et Amalek, c'est la négativité d'Israël. Pardon ?
C'est
qui
descend de
Shem ? Enfin, dans ce que je suis en train de dire, oui, oui. Je voulais dire ça maintenant. Normalement, c'est descendant de Shem.
Amalek,
oui, bien sûr. Enfin, il est sémite par son père, en tout cas. Son père, c'est Eliphaz. C'est un fils d'Esav. Mais la catégorie sémite n'est peut-être pas une catégorie importante. Bien.
Pourquoi tu me donnes mon nom ? C'est son nom. C'est un
nom. Oui. Bien, ensuite, alors maintenant, dans cette, pour décrire la bataille, et l'issue de la bataille, le Midrash utilise ce machal, un athlète qui se bat avec le fils du roi, et quand il voit que le roi est en train de regarder, alors il se laisse tomber, il se laisse vaincre pour que le fils du roi gagne, quoi, devant le roi. Et notre Midrash dit, effectivement, ce machal, c'est ce qui est dit dans le verset, le verset dit que l'ange a vu qu'il ne pouvait pas venir à bout de Yaakov. Et Rabbi Levi dit, qu'est-ce que ça veut dire ici qu'il ne peut pas le... Il ne peut pas venir à bout de lui. Ben c'est ce que le Midrash, c'est ce que la parabole voulait montrer. D'accord ? C'est-à-dire que il ne peut pas venir à bout. Quand est-ce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas venir à bout ? Parce qu'il a vu la Shrina au-dessus de Yaakov. Il a vu la Shrina au-dessus de Yaakov, il a dit, bon, j'arrête de me battre. Bon, il s'est laissé tomber. Quoi. Il a laissé Yaakov gagner. Parce qu'il a dit, ça ne vaut pas la peine de se battre. C'est Hachem, il a chem la chem. C'est-à-dire, Hachem se bat pour lui. Alors, il s'est arrêté. Oui, il aurait pu.
Mais quand il réalise que c'est le fils du roi, il se dit, moi j'étais à la tête, je ne peux pas me permettre de faire ça.
Tout à fait, oui. Et c'est bien cette idée que, effectivement, il y a la reconnaissance. Ça veut dire qu'au niveau théorique, si on peut parler comme ça, au niveau de l'ange, l'ange c'est entièrement la tête, quoi, quasiment, donc la tête, elle est parfaite. Ben, c'est le côté... C'est l'aspect d'Esav qui est là pour lutter contre Yaakov, mais qui, au fond, comme le Yetzirah, sa réussite, ce sera quand il aura été battu. Mais il n'a pas le droit de se laisser battre, en fait. Sauf ici, quand il est devant Hachem. Ce qui s'est passé, c'est que, comme il est devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Oui, bon. Là, il n'a pas pu, il n'a pas voulu résister, peut-être. Parce qu'il a, comme vous dites, par respect pour la Shrina, il a vu la Shrina, hein, comme il a vu comme l'autre a vu, l'athlète a vu le roi, le père du fils du roi, donc, bon, il a arrêté de se battre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est intéressant parce que, comme c'est présenté ici, il arrête de se battre. Lui, il dit, j'arrête, je ne me bats plus. Et il semble que Yaakov a continué de se battre. Et c'est pour ça qu'il a été touché à la hanche. Parce que Yaakov, il n'avait pas le droit de se battre. Il devait seulement, quand l'autre l'attaque... Il doit se défendre et éventuellement gagner. Et quand l'autre reconnaît qu'il a perdu, c'est un peu le droit de. Et donc il est allé trop loin. Il a continué de se battre et du coup il a été blessé. Dans l'ordre tel que c'est présenté dans le Midrash, c'est bien comme ça que ça se présente, n'est-ce pas ? On est. Oui.
Lui, il sait que quel va être l'issue.
Non, normalement, il va gagner.
Ah oui.
Sauf que tout à coup, il y a un changement de programme. Le roi fait irruption. Il est là. Le roi est là. Il est venu voir. Ils sont dans la pièce d'entraînement. C'est son prof de lutte ou je sais pas quoi. Donc il gagne systématiquement. Il est plus fort. Il va gagner. Mais il ne va pas le faire devant le roi.
L'idée, c'est quand même le roi qui a mis en place ce...
Oui, ben tiens, c'est bien ça. C'est, Edom, il n'est pas là de sa propre initiative. Edom, il est là parce qu'Hachem a créé Edom pour, on peut dire, comme faire valoir, ou pour poser des problèmes, pour fabriquer du srout pour le clan Israël, pour Yaakov. Et donc là, le Midrash présente les choses que le... C'est pas, quand on lit le texte, on voit pas que ça se présente comme ça. On a plutôt l'impression que Yaakov est assez fort et il voit qu'il n'arrivera pas à le battre. ne voit pas qu'il y a une intervention de... Et de facto, quand on nous dit que quand il va affronter le bonhomme Esav, enfin l'homme Esav, c'est marqué qu'il a très peur, Yaakov, et c'est marqué dans Chazal, il a autant peur de tuer que d'être tué. Il sait qu'a priori, si la lutte, elle s'engage, ce sera une lutte à mort. Et il a... Bon, alors, finalement, il a peur parce que... Bon, s'il est tué, bon, ça veut dire que le projet dans lequel il est engagé ne se fera pas. Et s'il tue, eh bien, d'une certaine façon, il se disqualifie. Quelque part, il aura les mains sales. Lui qui voulait justement ne pas les avoir. Pas avoir les mains sales. Donc, il a très peur. Mais il n'a pas peur de... Il est aussi fort que lui. Il est... En vérité, c'est pas un petit gringalet face à un athlète. Il est aussi fort que lui, en réalité. Dans le Midrash, on change les choses, ici. On le présente, lui, comme étant pas aussi fort que l'athlète, a priori. Et que s'il gagne, enfin, quand est-ce que l'athlète arrête de se battre? Ben parce qu'à cause du roi, pas du tout, parce que ben, la force intrinsèque de la force propre de Yaakov. Kilo yacholo, alors Abéria dit, Einanu yodim minitzach. On ne sait pas qui a gagné. Ici, on a vu que... Bon, alors, ça veut dire que le fait qu'il ait arrêté de se battre, ça ne prouve pas que Yaakov a gagné. Puisqu'il ne s'est pas arrêté à cause de ça, il s'est arrêté parce qu'il a vu la Shrina. On ne sait pas. Im Malach, im Yaakov. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de trancher ? C'est l'utilisation, au lieu de dire, le verbe qui est utilisé pour décrire la lutte, ça va y être avec, et alef, bet, kouf, avak, ça veut dire poussière. Va y être avec, ish, imo, ça veut dire, quelqu'un a produit de la poussière avec lui, ça veut dire, comme ils se sont battus, dans un endroit, et ça a fait beaucoup de poussière, quoi, quelque part. C'est... Et ve mi nitmale avak, qui est-ce qui est le vaillé avec, ish, c'est le ish qui est poussiéreux, quoi. C'est si je prends vaillé avec au sens de la lutte, on a bien lu que c'est l'ange qui a agressé, c'est lui qui a entrepris la lutte contre Yaakov. Et donc l'empoussiérage, si on peut parler comme ça, ben, il le concerne lui aussi, c'est lui qui est actif dans cette affaire. Donc c'est le ish qui est couvert de poussière. Et donc on sait que c'est Yaakov qui a gagné, semble-t-il. Mais d'où est-ce qu'on le sait? Parce que si Beyavek veut dire simplement ça a produit de la poussière, on ne sait pas. Eux, ils ont traduit en français, ils ont traduit la mort de la poussière. Alors évidemment, si mort la poussière, ça veut dire qu'il a perdu. Mais Beyavek, ça ne dit pas a priori mordre la poussière. Ça dit seulement, ça a produit de la poussière. Alors, à moins qu'on dise qu'effectivement, qui est-ce qui était couvert de poussière? Pourquoi il serait couvert de poussière? Parce qu'il est tombé par terre sur le sol et donc il s'est sali. Donc il aurait perdu, si on le lit comme ça. Donc ça va bien de dire... Le S. Yosef, il dit, c'est parce que Yaakov, il pile au Arza. Yaakov l'a fait tomber et il a roulé dans la poussière. Alors, eux, le Etz Yosef, là, que vous avez probablement aussi, il dit quelque chose d'assez surprenant. Il dit, Yaakov l'a fait tomber, et il dit, Vezeu vayar ki lo yachol lo. C'est comme ça qu'il faut entendre quand l'ange a dit, il a vu qu'il ne viendrait pas à bout de Yaakov. Et à ce moment-là, donc, il l'a touché à la hanche, et il explique, Kibat. Bah, Yaakov kvaripilo, artsa, puisque Yaakov l'avait jeté à terre, Yaakavush tachat yado, donc il le tenait, il le maîtrisait. Esnagab kafirecho shelo bechavana. Il avait perdu et il l'a pas fait volontairement. Il a touché, il s'est débattu quoi, et c'est pas qu'il a voulu porter un coup à la hanche. Il dit qu'il s'est seulement débattu et il a tiré un peu dans tous les sens et c'est tombé sur et ça lui a déboîté la hanche. Bien, alors, pour la suite, Amar Avchanina Bar Yitzhak. Avchanina Bar Yitzhak, il vient maintenant expliquer pourquoi on a dit que quand il a vu la Shrina, il s'est couché, enfin il a arrêté de se battre. Et lui, il vient dire pourquoi est-ce que il a arrêté de se battre, parce que ce qu'il a vu dans la Shrina, c'est que la Shrina, quand Joukou lui a parlé, comme il a parlé ici, il lui dit, mais il a cinq miyot, il a cinq amulettes, ça veut dire il a cinq arguments contre lesquels tu ne pourras pas te battre. Donc, Hachem vient et il lui dit, cesse de te battre, tu peux pas gagner. Ce qui est intéressant, c'est que des cinq arguments, il y en a quatre que ça va également. Ils ont le même père, la même mère, ils ont le même grand-père, la même grand-mère. Donc tout ce qu'il a, c'est son sroute. Yaakov, il a son sroute. C'est tout. Et ça n'a pas le sroute en question. Donc c'est pas rien quand il lui dit. Bah, regarde simplement, est-ce que tu peux tenir même à Filoubisruto? Parce qu'à la limite, on peut penser que Esav, la même sroute que. La vérité, c'est que c'est pas tout à fait comme ça. C'est que Esav, n'allant pas dans les voies de Yitzhak, Rivka et Sarah, il ne peut pas se revendiquer, le sroute. Donc il n'a pas, les quatre non plus, il ne les a pas vus. Donc formellement, il a la même ascendance. Donc il n'a que un sou. Alors, et même si on te donnait les quatre, donc ça fait match nul sur les quatre, il en reste un. Son sou à lui, donc son sou à lui, tu ne gagnes pas non plus. Donc il dit, medad atzmecha, c'est-à-dire, il lui dit, évalue-toi, medida c'est une mesure, mesure-toi, ça veut dire, regarde si tu peux le faire. Le Etz Yosef, il dit, d'où est-ce que le Midrash, il a su qu'il lui a dit de se confronter sur une... uniquement avec le srout de Yaakov, c'est parce que c'est marqué dans le pasouk, Vayar ki lo yachol lo, au singulier. Donc c'est vrai, rien que contre lui, il ne peut pas. Sous-entendu, il y en a d'autres encore, il y a les quatre autres arguments, mais même contre Yaakov, même contre le seul srout de Yaakov, il ne peut pas gagner. Miyad Vayar ki lo yachol lo. Et alors là, maintenant, le Midrash, il amène ce deuxième machal. C'est un drôle de Midrash parce qu'il amène les machalim sans nous dire initialement à quoi ils servent. L'autre aussi, il amène d'abord un machal. Il amène un machal, le machal donc de ce fameux ce chien sauvage contre lion domestique. Et alors le roi a habitué le lion à être copain avec son fils, ou son fils à être copain avec le lion, je sais pas. Et alors, il lui dit, avec ce machal vient dire en fait, que ça veut dire, comment tu veux t'attaquer au clan Israël? Comment vous, Omot Haolam, voulez vous attaquer à Israël? Votre tsar, votre prince, n'a pas réussi à en venir à bout. Alors maintenant, vous voudriez le faire. Alors ici, il y a plusieurs remarques à faire. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, Ici, on voit une chose très importante, mais qui est bien connue. Bon. Le Midrash dit que l'ange qui a attaqué, enfin, le Ish, qui a attaqué Yaakov, dont on vient de dire qu'il était Sarosh et l'Esav, il est appelé Sarchem, votre Sar, votre prince. Mais ce n'est pas le prince des Umota Olam, c'est le prince des Esav. On a dit au début que c'était le prince des Esav, on n'a pas dit que c'était le prince des Umota Olam. Alors, il y a une leçon du Gaon qui dit que dans les Shivim, les 70 peuples, comme toujours, quand 70, il y a toujours éventuellement deux qui sont en tête, comme dans le Sanhedrin aussi. Et les deux, c'est Esav et Ishmaël, qui représentent tous les autres peuples. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser vu la chronologie, c'est Esav et son beau-père. Le beau-père Ishmaël est second par rapport à Esav. D'ailleurs, on dit dans les. On demande toujours Kale Seir Vechotno. On demande à Hachem qu'il détruise Seir, c'est. Celui qui habite dans Har Seir, c'est Edom, Vechotno et son beau-père, c'est-à-dire Ishmaël. Donc ça veut dire qu'il y en a deux qui sont à la tête et il y en a un qui est plus que les autres, finalement. Donc d'une certaine façon, Esav représente tous les peuples. Et d'une certaine. Enfin, ça explique un peu pourquoi Esav peut prendre, ou Edom prend ses différents. Visage au cours de l'histoire, il représente toutes les puissances dominantes à l'époque. Donc quand on dit c'était Rome, parce que Rome était dominant, en Occident, en tout cas la chrétienté était dominante, c'est pas l'Occident, mais c'est le monde dans lequel il y avait des juifs, quoi. C'est pas en tant que tel, c'est pas. Mais le monde où il y avait essentiellement des juifs, il y avait trois pelés, quatre tondus, probablement, peut-être chez les Chinois ou en Inde, etc., mais au départ, essentiellement. Là où il y avait des juifs, il y a eu un moment donné où la chrétienté était dominante. Et après, alors bon, on a toujours le problème d'Ishmaël. Alors, il est aussi là, Ishmaël, parce que si ça se trouve, Ishmaël, c'est peut-être le monde musulman. Si on prend Ishmaël comme religion, comme idéologie, c'est pas les Arabes seulement. Et du coup, ça déborderait sur l'Afrique, ça déborderait sur. Je sais pas à quel moment. Enfin, c'est l'Afrique du Nord en tout cas, puisque quand les. Ils ont conquis les. Et puis ensuite, si la puissance. L'empire dans lequel. Sur l'Europe, avec la. Qui était dominant, ça, à un moment donné, ça a été les nazis, à un moment donné, ça a été, c'était l'Union soviétique, qui était, ou dominant sur une partie de l'Europe et important, qui faisait un peu la pluie et le beau temps sur l'autre partie. Et puis aujourd'hui, les choses sont devenues peut-être plus mondiales, mondiales. C'est l'Amérique, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est. On ne voit pas que ce soit facilement, disons, la Chine ou l'Inde, même si numériquement ils sont plus importants. Il n'y a pas tellement de juifs là-bas.
Mais on ne parle pas du tout de cela dans la Torah. La Chine, fille asiatique, on n'est pas rattaché.
C'est l'Est. Oui, c'est l'Est. Non, ici. Donc, tout ça pour dire que quand on parle du sar chez les saves, il est aussi le sar des autres peuples. Puisque Esav est le peuple dominant dans les Shivim Umot, alors le sar de Esav est dominant sur les sarines des autres peuples. Quand il dit c'est votre sar, votre prince, c'est le prince d'Esav, n'a pas réussi à en venir à bout, et est-ce que vous vous imaginez que vous pourriez en venir à bout?
Comment ça se fait que... Enfin, j'ai cru dire qu'avant la naissance des Sars, des Ismaël, les 70 nations étaient déjà composées. Par exemple, par la contribution de Babel, je crois.
De
Babel, de... La tour de Babel, là.
Oui, moi, la tour de Babel, tu veux dire? Oui, ouais, à ce moment-là, il y a... Bon. Les nations se sont fondées à ce moment-là.
Mais comment ça se fait que... Et ça, si c'est une nation à part entière, bon, certes, représentant Luxim, Ismaël, moi, pas du tout, mais comment est-ce qu'ils peuvent exister avant même leur père fondateur?
Non, mais il est devenu dominant. Peut-être que ces nations, elles étaient là. Il y avait un moment où le dominant dans la tour de Babel, c'était Nimrod. Bon, c'est pas Esav, Nimrod. Mais quelque part, Esav, c'est celui qui va prendre le fameux manteau que Nimrod avait pris à Adam Arishon.
Il va se faire tuer aussi.
Oui, il va se faire tuer de la même manière aussi. Mais Nimrod va se faire tuer par Esav. Et finalement, Esav va être tué. Bon, il n'est pas tué par lui, mais tué par Hushin ben Dan, le fils de Dan, qui est lui coupe la tête, ils savent. Non, il ne fait pas partie des Saves, mais il est quelque part un ancêtre des Saves, dans la mesure où Esav a pris son pouvoir. C'était lui qui était au pouvoir, c'est lui l'organisateur de la tour de Babel, Nimrod.
Ouais.
Et après, c'est lui qui avait tué, qui avait volé le manteau de la coutonnette, que le manteau qu'Hachem a fait à Adam, et c'est pour ça qu'il était un grand chasseur, parce qu'en fait, les animaux venaient à lui, parce qu'il y avait ce parfum de Gan Eden.
Et Dan n'a pas récupéré le potentiel
Non, pas du tout, Dan, c'est pas autre chose. Non, mais il est resté Edom. Edom est maintenant séparé. Donc, toi, tu posais la question, comment... Alors, Edom, justement, il a, quelque part, il a pris la place de Nimrod, donc il y a cette dominance. Les nations existaient avant lui. Edom, il n'est pas... Il n'est pas...
C'est la nation,
De quoi?
C'est le père fondateur d'une nation.
Oui,
et
ben...
Temps, il fait que...
Il a une nouvelle nation, une nouvelle nation qui prend le pouvoir.
Non, mais c'est pas une nouvelle nation, puisqu'elle existait déjà.
En tant que telle, non.
Ben si, puisque les 70 existaient avant.
Ah, les 70 existaient, mais que lui représente le pouvoir... C'est pas qu'il est les 70 nations. Il représente les 70 nations. Parce qu'il les domine, parce que maintenant, il a repris la main sur le monde.
C'est pas dans le terme de représenter les 70, il représente sa nation, mais avant de naître, sa nation existait déjà.
Non.
Bah, on parle
il est né, Edom, il est né chez... C'est le fils d'Yitzhak.
Oui, mais par exemple, les 70 langues de Babel.
Où alors? Il y avait 70 peuples.
Oui, bah c'est les mêmes, non? Et là, dedans, il y a ça, non? Enfin, il y a les hommes.
Non, puisque Israël n'existe pas encore, Yaakov n'existe pas, Avraham Avinu, il est après la tour de Babel.
Oui, mais vous m'avez dit que Israël ne fait pas partie des 70.
Oui.
Donc, enfin, nous, on subit.
Oui, mais Israël, c'est depuis Avraham, on n'est plus dans les 70. Et lui, il n'est pas dans les 70, il s'y est mis, il n'y était pas, il s'y est mis. Et il est allé les dominer. Non, parce qu'Ishmaël n'a jamais été dans le coup. Ishmaël, il a jamais, si tu veux, c'est marqué qui be Yitzhak ikare le chazara. Hachem a dit à Avraham Avinu, qui demandait que il y a Ishmaël là, t'as qu'à faire, au lieu de faire un nes que deux vieillards aient un enfant, Yitzhak, fais un nes que Ishmaël devienne un type bien. Alors Hachem lui a dit, j'entends ce que tu veux pour Ishmaël, il va devenir un grand peuple, tout ça c'est Abraham. C'est la faute d'Abraham si Ishmaël est tellement puissant. C'est Abraham qui a prié pour lui. Mais ta descendance, Be Yitzhak Ikare Lechazara. C'est Yitzhak, et pas vraiment tout Yitzhak, Be Yitzhak, une partie d'Yitzhak qui sera ta descendance. Donc Ishmaël n'a jamais été la descendance d'Abraham. Ishmaël, oui, il va être un des 70 peuples, il va devenir un des 70 et il va être dominant, et peut-être 70 c'est l'Avdak 70, et même si c'est l'Avdak 70, ça peut être appelé à des peuples qui ont disparu, qui ont été mangés par les autres.
Bon, attendez, je reformule juste pour que j'ai bien compris. Vous dites que par exemple les 70 de Babel, ce n'est pas les mêmes 70 après la sortie d'Égypte.
Non, il y a des peuples qui ont été mangés par d'autres.
C'est 70, c'est fluctuant.
Il y a une espèce de constante qu'on appelle 70 nations.
Mais c'est pas les mêmes.
Mais il y a un moussad, il y a une notion. Comme l'a dit, il y a une notion d'Israël. D'accord ? C'est toujours le même peuple. Il est habité par les différentes générations. Nous, on n'est pas... Il n'y a pas un peuple d'Israël d'aujourd'hui, un peuple d'Israël du temps d'Abraham Avinu et un peuple d'Israël du temps de Moshe Rabbeinu, etc. Il y a une notion qui s'appelle peuple d'Israël. Et cette notion-là, un peu abstraite, cette structure abstraite, elle est habitée successivement par telle et telle génération. Il y a une notion qui s'appelle Shivim Umot, qui est habitée par 70 peuples, qui éventuellement se organise, réorganise différemment. C'est quelque chose qui est toujours en train de se faire. Tu regardes, je ne sais pas, il y a un peuple comme le peuple kurde. Et, ouais, les Kurdes, si tu regardes les nations en tant que telles, alors il y a une partie qui est irakien, une partie qui est turc, une partie qui est syrien, ou je ne sais pas quoi. Et voilà, c'est...
Je pense que c'est stable.
Non, c'est pas stable. Non, c'est pas stable. Mais ça peut pas être stable, je dirais. On voit bien que les nations, elles se mangent, elles s'organisent différemment et tout.
Mais les nations, c'est pas forcément les peuples.
Non, mais même les peuples, il y a des peuples qui disparaissent. Alors, donc Hachem, en fait, utilise, le Midrash ici, il utilise cette lutte comme un argument pour la confrontation entre Israël et les Omotaolam. Ça se présente comme une confrontation Esav-Yaakov, enfin, ou l'ange d'Esav contre Yaakov, et puis c'est étendu, on étend, et comme Esav, justement comme je viens de dire, comme Esav représente tous les peuples, donc du coup Hachem dit à tous les peuples, il leur dit, ça sert de modèle. Si on regarde terme à terme, c'est quoi ? Quel est le lion ? Le lion, c'est quoi ?
Le roi ?
Non, le lion, c'est le lion, c'est le tsar de Esav. Et les Omota Olam, c'est les chiens. Et l'enfant, c'est Israël. Et les chiens veulent attaquer l'enfant. Et le roi, là, c'est Hachem, là, tout coup, il leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous n'imaginez pas que vous, chien, vous allez pouvoir attaquer, alors que le lion lui-même n'est pas venu à bout d'Israël. Le tsar d'Esav, lui, n'a pas gagné contre Israël. Alors, vous êtes des chiens, c'est... par rapport à Esav. Sauvage, c'est vrai. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on présente Esav comme domestique et les Homo Tarlam comme des sauvages. Sauf la tête des. Comme je dis tout le temps, hein, la tête d'Esav, elle est la Marat Amarpella.
Oui, comme Esav.
C'est ça le domestique.
Comme Esav, à la position de l'union, quelque part, c'est lui qui est à la tête de l'union.
Oui.
Donc,
il est au-dessus d'eux. Il est au-dessus d'eux et quelque part, il les. Il les organise, il est un principe organisateur, il est. C'est ça, c'est. Mais lui, il est civilisé, peut-être civilisateur, il essaie de civiliser le Homo Taolam.
Alors qu'un Midrash dit qu'il ne va pas tirer les oreilles du chien.
Amalek.
Hein?
Amalek.
Amalek?
Amalek, c'est le chien.
Ah, mais c'est. Non, c'est quand on dit Jacob, qu'on lui reproche d'être allé.
Ah, là-bas, oui, il va tirer les. Oui, non, ça c'est autre chose. Ouais. Parce que par rapport à Yaakov, il est peut-être un chien.
C'est autre chose.
Non, mais ici dans le Machal, c'est intéressant de voir que Esav, enfin le sar de Esav, c'est le civilisé, le domestique. Quoi.
Oui.
Les Homo Taolam, c'est les chiens.
Le lion, c'est quand même très noble.
Alors c'est intéressant parce que. C'est intéressant que le Midrash. Il met le lion comme. Chez nous d'ailleurs, le lion c'est le roi. Et j'ai entendu que chez les chrétiens par exemple, le lion, c'est relativement récent que le lion est le roi. Avant c'était l'ours. Les chrétiens, c'était l'ours. Mais c'est. Et c'est le christianisme, je ne sais plus à quel concile, ils ont décidé que ce serait plus. Que ce serait pas plus l'ours, mais le. Mais le lion.
Sur le Midrash, il y a un petit peu de croisement parce que normalement, ce qui est domestique, c'est le chien, et ce qui est sauvage, c'est le lion.
Oui, bien sûr.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, par rapport à ça, c'est sa position par rapport à Jacob qui fait que.
Non, c'est parce qu'il est. Sauf, il est un. C'est le fils de Yitzhak. On sait rien du tout. Son scout, c'est qu'il l'honorait. S'il l'aimait ou pas, c'est pas du tout la même chose.
Mais qu'est-ce qu'il y a comme autre scout en fait? Et pourquoi il serait si élevé sur les saints? Simplement parce qu'il est le fils d'Israël.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Ismaël est le fils
d'Abraham, mais il est jamais considéré. Vous comprenez, il faut quand même penser que Yitzhak Avinu a eu une Ava Amina. Que la chalchelette, elle passe par Esav. Je ne pense pas qu'il pensait que ça ne se passerait pas. Il pensait que Esav serait adjoint à Yaakov, qu'ils feraient ça ensemble. Ils partageraient, ils feraient le boulot ensemble. Et en fait, de facto, c'est un peu ce que Yaakov a fait. Seulement, normalement, ils auraient dû faire tous les deux tout. Et Yaakov, il n'a absolument rien voulu savoir de ce. Salir les mains avec le monde. Il lui a tout donné, il a donné tout le monde à Esav. Oui, alors ça vous laisse songeur. Donc, Esav représente ici le lion domestiqué. Enfin, c'est son prince qui. Domestiqué, mais bon. Mais là, on voit qu'il est aussi le prince de. Ouais. On pourrait lire un petit peu différemment. Parce que le lion, c'est le prince de. c'est le prince, c'est l'ange. Oui. Mais il est présenté ici comme, comme le prince des nations. Sarchem, votre prince. Donc le lion, après ça, ce serait la partie domestique des Homotaolam. Et les Homotaolam, c'est le chien, c'est-à-dire c'est la partie sauvage des Homotaolam. C'est-à-dire, vous avez des éléments de civilisation, si on peut parler comme ça. Les éléments de civilisation des Homotaolam aussi. C'est les éléments de civilisation qui lui sont donnés éventuellement dominés par, par Esav. Mais ça veut dire que si culturellement, c'est ce qu'on est en train de dire, quoi, si culturellement les Homotaolam ne peuvent, ne sont ni Esav ni Homotaolam n'ont pu venir à bout d'Israël, donc alors militairement ou autrement que de façon non culturelle, quoi, si vous voulez, militairement ou, par la violence, etc., vous ne réussirez pas non plus. On pourrait dire que au fond c'est, je pensais quand je disais ça, je pensais à Rome et à la Grèce, c'est-à-dire que Rome a gagné contre la Grèce. Mais la culture grecque a imprégné les Roms. Il y a des éléments qui sont purement romains, mais c'est gréco-romain, la culture. C'est pas purement romain. Donc ça veut dire que Rome n'a pas pu gagner complètement. Parce que les éléments de civilisation, c'est-à-dire qu'on fait plus dans, on fait plus référence à Platon et Aristote qu'à Cicéron ou... Ouais, Tacite, je sais pas, je crois que c'est juste. Donc, quelque part, vous ne pouvez pas gagner, parce que culturellement, vous ne pouvez peut-être pas à la hauteur. Mais même si physiquement, ben, c'est bien ce qui nous arrive. Physiquement, ils nous dominent depuis longtemps. Mais ne vous imaginez pas que vous pouvez gagner. C'est une victoire momentanée, mais vous ne pouvez pas gagner. C'est une autre lecture un peu de... Je vais peut-être aller plus proche de la vérité. Vous avez dit quelque chose?
Oui, je peux poser une question.
Oui, vous pouvez toujours essayer.
Si on me montre un lion et un chien, et on pose la question lequel est le plus sauvage et lequel est le plus domestiqué, je dirais que le chien est plus domestiqué que le lion.
Oui, nous sommes d'accord.
Et pourquoi le Midrash dit l'inverse?
Il n'a pas dit que le chien était... On parle d'un chien sauvage. Il a un chien sauvage. Et un lion domestiqué. On a voulu montrer justement cette inversion. C'est-à-dire qu'il a la toute puissance, le roi, avec, il est sauvage, et, mais on voit que le Midrash dit que le roi, il a habitué, d'accord, il a habitué, il a apaisé l'enfant. Pour que l'enfant, quand on l'a mis à côté du lion, il était dans tous ses états. Et lentement, il a habitué l'enfant à pouvoir être assis à côté du lion.
Mmh. Un roi vis-à-vis d'un lion, tendance à dire que c'est serré, quoi. C'est le dompteur devant un lion. Effectivement, le dompteur d'une lion.
Il... Et le lion peut manger le dompteur. Chien sauvage, si vous avez. Pardon, c'est.
Tu es habitué, tu es campagne, tu ne manges pas. dans le froid, on va laisser un laisse déjà dressé pour
C'est une mauvaise civilisation.
Mais en fait, quand on regarde un peu les trucs de société, on a l'impression que avec tout le métissage, tout ça, au final, il n'y en aura plus qu'un. Après, il y a des influences, j'imagine, des différentes nations, mais on a l'impression qu'en fait, en fait, Israël, il n'y en a plus qu'un. Donc, ça se voit surtout au niveau de la couleur, quoi. C'est de plus en plus vers une couleur intermédiaire.
En Israël aussi. Bien, on va s'arrêter là. On n'est pas tout à fait fini, mais...
Merci.
Bonsoir. Motsé Shabbat, il y a une... Madame Malka.
Shalom.
Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom.